Tech à l'affût du 6 sur T. Et c'est sur bougardier.fr.
Nous sommes le lundi 16 juin et il est 7h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour David, bonjour à tous. Une nouvelle nuit d'attaque entre Israël et l'Iran. Et de chaque côté, des populations minées par la peur, des bombes, des missiles et aussi une escalade verbale. Aux États-Unis, le suspect du meurtre d'une élue démocrate dans le Minnesota a été arrêté cette nuit après 2 jours de chasse à l'homme. Et puis le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes ce matin et pour toute la semaine. Un secteur qui a encore bien du mal à s'ouvrir aux femmes.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal, suivi des voix de l'économie avec Jacques Maire, commissaire général du pavillon France, à l'exposition universelle d'Osaka. L'heure est encore à l'escalade entre Israël et l'Iran.
Bombes contre missiles pour la 4e nuit consécutive et de chaque côté des populations qui tremblent. L'Iran a envoyé une salve de missiles en direction d'Israël cette nuit. Les secours israéliens parlent de 4 morts et 87 blessés à Tel Aviv et Haïfa. 16 morts depuis samedi matin. Myriam est franco-israélienne, elle habite à Tel Aviv. Mais malgré les risques, malgré la peur, elle soutient cette guerre frontale que mène Israël contre l'Iran.
Il y a clairement une dualité dans ce qu'on ressent, qui à la fois, c'est stressant, enfin je veux dire, moi j'ai grandi à Paris, donc on grandit pas avec l'idée qu'on va se faire bombarder, mais en même temps, c'est tellement impressionnant de voir la précision, le planning, c'est époustouflant quoi, ce qu'ils ont réussi à faire. Je suis absolument ravie qu'on s'en prenne au régime, ravie de serrer les dents et de sacrifier mon confort personnel. La première chose que j'ai dit après le 7 octobre, c'est il faut qu'on attaque l'Iran. Il faut qu'on s'en prenne à la tête du monstre. C'est un cancer dans la région. Ça fait 45 ans qu'on a cette menace existentielle. C'est quelque chose qui va avoir une action positive non seulement pour nous, mais pour les populations locales.
L'Iran promet des frappes plus dévastatrices contre les cibles vitales d'Israël. L'armée israélienne, elle, a visé cette nuit des sites de missiles iraniens. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution, Mohamed Kazemi, a été tué. Des centres de commandement ont été frappés à Téhéran. Mais là aussi, la population iranienne a peur. Il y a au moins 224 morts depuis le début de l'offensive dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la capitale iranienne, c'est la stupeur et la panique, raconte la sociologue franco-iranienne Azadeh Kian.
Les gens que j'ai eus se disaient tétanisés. Ceux qui peuvent quitter la capitale Téhéran, qui est très très frappée par Israël, le font. Sauf que tout le monde n'a pas une résidence secondaire ailleurs. Une amie à Téhéran disait qu'il y a énormément de personnes qui faisaient la queue dans les stations d'essence. Le régime iranien n'a pas pensé à faire des abris. Même pendant les 8 années de guerre Iran-Irak, et j'y étais à l'époque à Téhéran, eh bien, il n'y avait pas d'abris. Donc, on descendait dans le parking. Et aujourd'hui, les Iraniens ne savent pas où aller, raison pour laquelle le nombre des civils tués est en augmentation constante. Et puis, il y a encore beaucoup de personnes qui visiblement sont sous les décombres.
Des témoignages recueillis par Lauriane Toulmont. Le président américain Donald Trump appelle Israël et l'Iran à trouver un accord. Emmanuel Macron se prononce pour une médiation américaine dans ce conflit. 2 jours de chasse à l'homme et le suspect du meurtre d'une élue démocrate et de son époux dans le Minnesota a été arrêté. Il est en train d'être interrogé. Vance Bolter a 57 ans et son profil est particulièrement dangereux, Servane de Pastre.
Oui, ancien agent de sécurité, fervent catholique, anti-avortement. Vance Bolter serait passé à l'acte pour des raisons politiques, estime le gouverneur du Minnesota. Il aurait agi seul. Dans sa voiture, une liste de 70 noms a été retrouvée, tous de potentielles cibles, estime la police. Parmi les personnes qui figurent des défenseurs du droit à l'avortement, mais aussi des élus démocrates comme Melissa Ortman, la députée assassinée samedi avec son mari, ou encore John Hoffman. Ce sénateur ainsi que son épouse ont été également visés, grièvement blessés samedi. Mis à part cette liste, des flyers pour des manifestations anti-Trump ont aussi été découverts dans le véhicule. Des rassemblements qui auraient pu devenir des cibles, estiment les autorités. Cette crainte d'un nouveau passage à l'acte a donné lieu à la mobilisation de centaines d'agents pour retrouver le suspect. C'est la plus vaste chasse à l'homme jamais organisée dans l'état du Minnesota, selon la police locale.
Merci Servane de Pastre. Donald Trump ordonne de nouvelles opérations anti-immigration aux États-Unis, à Los Angeles, Chicago et New York. De gigantesques manifestations ont eu lieu ce week-end dans tout le pays contre la politique migratoire de l'administration Trump. Le président américain est arrivé au sommet du G7, comme les autres dirigeants, au Canada, dans un hôtel au milieu de la forêt du massif des Rocheuses. Et le Moyen-Orient risque bien de perturber les discussions. Le commerce mondial et les effets des droits de douane occupent tout de même les dirigeants dans sa conférence de presse initiale. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, appelle à éviter le protectionnisme. Le maire d'Istanbul, devant la justice aujourd'hui, Ekrem İmamoğlu est le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Il est accusé d'avoir proféré des menaces contre un procureur et risque une peine de prison. L'opposition dénonce une opération de muselage, explique Dorothée Schmitt. Elle est responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales.
L'enjeu, c'est bien sûr de l'empêcher d'être candidat à la présidentielle contre Tayyip Erdogan ou contre le prochain candidat de la KP qui serait le successeur de Tayyip Erdogan. Il n'a déjà pas pu se présenter à la dernière présidentielle parce qu'il avait un procès pour insulte au Conseil électoral. Donc on a très clairement cette idée que de façon tactique, il faut l'empêcher de se présenter aux élections. Mais si on arrive à trouver des charges, des accusations plus lourdes, des charges de corruption beaucoup plus lourdes, le maintenir en prison pour l'empêcher aussi tout simplement de fédérer l'opposition.
Dorothée Schmitt répondait à Jeanne Serrin.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h05. Les épreuves du baccalauréat commencent ce matin avec la philosophie.
Il y a sans doute un peu de stress à l'heure du petit déjeuner pour les 530 000 élèves de terminale qui vont plancher sur la philo ce matin. Pendant ce temps-là, les élèves de seconde n'ont plus cours, mais ils commencent leur stage en entreprise. L'année dernière, en fonction des départements, entre 85 et 98% des élèves avaient trouvé un stage, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Mais dans les faits, Chloé Sénard, le dispositif n'est pas tout à fait au point.
Le lycée polyvalent Louis Rascol à Albi compte près de 350 élèves de seconde. 80% ont pour l'instant trouvé un stage en entreprise contre 95% l'année dernière à la même période. Cette année, c'est plus compliqué, selon la proviseure du lycée et secrétaire adjointe du SNPDEN UNSA, le syndicat des proviseurs. Christelle Kaufmann s'interroge sur les conséquences de la réforme des lycées professionnels.
Les élèves de Terminal Pro cette année choisissent en fin d'année, soit de rester au lycée pour faire le parcours de consolidation et donc approfondir avant d'entrer en BTS ou en études supérieures, et d'autres vont directement en entreprise parce qu'ils veulent s'insérer dans l'emploi. Et donc, ça fait des élèves supplémentaires par rapport aux autres années sur le marché des stages, je vais le dire comme ça, d'autant que les stages pour les terminales pro sont rémunérés.
Pour faciliter la recherche, son établissement a élargi les dates de stage jusqu'au 5 juillet. Ceux qui ne trouvent pas doivent rester chez eux, faute de professeurs disponibles, réquisitionnés par les examens.
Lui a fait un peu plus qu'un stage en entreprise. Luca De Meo, le directeur général de Renault, quitte ses fonctions à la surprise générale. Ça faisait 5 ans qu'il était à la tête du constructeur automobile. L'Italien va rejoindre le groupe de luxe Kering. Le salon aéronautique du Bourget démarre aujourd'hui, un salon où on célèbre le retour à la croissance du secteur aérien. Un secteur avec des ingénieurs, informaticiens, développeurs, des métiers encore très masculins. Seuls 23% des postes sont occupés par des femmes, notamment parce que moins d'un quart des filles se tournent vers des études scientifiques. Valérie Brusseau, présidente de l'association Elle Bouge, nous donne quelques explications.
Nous avons une éducation encore extrêmement genrée. Il suffit de regarder les couleurs des jouets. Les enseignants vont avoir plus tendance à interroger les petits garçons, ce qui fait que les petites filles, même si elles ont une préférence pour les maths, vont avoir tendance à ne pas s'exprimer dans la classe. Et les filles ne connaissent pas l'entreprise et l'entreprise doit travailler sa désirabilité. C'est les projeter dans des univers de l'industrie, expliquer qu'il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Concevoir sur un ordinateur, être à la tête d'un projet, c'est juste un savoir qu'il convient d'apprendre et d'exercer.
Des propos recueillis par Éric Cuoche. Et puis le Paris Saint-Germain entame la Coupe du Monde des clubs comme il a fini la Ligue des Champions en surclassant ses adversaires. 4-0 contre l'Atlético de Madrid hier soir.
C'est donc le bac philo. Vous avez eu combien au bac en philo, ma chère Virginie?
J'ai eu une très mauvaise note.
Ben, si ça peut vous rassurer, moi aussi j'ai eu 5 et j'ai honte.
Bon, alors, moi pas tout à fait aussi mauvais.
Il est 7h08 à suivre François Vidal, l'éditorial avec les Échos.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
Carrefour.
Chez Carrefour, pour deux boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Dans son nouveau hors-série, Le Parisien vous invite à remonter le temps jusqu'au Paris antique, Lutèce. Grâce à l'accès privilégié offert par le pôle archéologique de Paris, plongez dans l'histoire de la ville et découvrez le quotidien des habitants au 1er siècle de notre ère. Vivre à Paris au temps des Romains, un hors-série Le Parisien chez votre marchand de journaux.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. Deux mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiac. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à data mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec François Vidal pour l'éditorial avec les Échos.
Avec Valtus, leader mondial du management de transition. Valtus, 24 pays, notre objectif, votre réussite.
Bonjour François.
Bonjour David.
On vous retrouve à 7h11, comme tous les matins sur Radio Classique. Quelles menaces le conflit entre Israël et l'Iran fait-il planer sur l'économie mondiale?
Des menaces encore virtuelles, mais potentiellement majeures. À court terme, c'est évidemment l'approvisionnement en pétrole de la planète qui est à risque. D'abord parce que Téhéran fournit 3% de la production mondiale, à destination de la Chine pour l'essentiel. Mais surtout parce que le détroit d'Hormuz, qui borde les côtes iraniennes, est l'artère principale du trafic pétrolier mondial. Chaque jour, 20% de l'or noir et du gaz naturel liquéfié consommé dans le monde y transite. S'il venait à être bloqué sous l'effet d'une régionalisation du conflit, le risque de pénurie monterait en flèche. Mais on n'en est pas là. L'offensive israélienne cible les installations nucléaires et militaires de l'Iran seulement. Quant aux installations pétrolières et gazières, elles ne sont que marginalement touchées jusqu'ici, ce qui explique que les pays du Golfe et les États-Unis se garde d'intervenir. Pour autant, chaque jour qui passe augmente le risque d'une crise énergétique. C'est pour cette raison que les cours du pétrole se sont envolés depuis vendredi. Mais il y a d'autres canaux de contagion moins spectaculaires et tout aussi toxiques pour l'économie mondiale.
Alors quels sont ces canaux de contagion toxiques pour l'économie?
Le risque d'une nouvelle poussée inflationniste pour commencer. Si les cours de l'or noir dépassaient durablement les 100 dollars le baril, la transmission au reste de l'économie se ferait rapidement sur le modèle de ce qui s'était passé en 2022 lors du déclenchement de la guerre Russie-Ukraine. Or, la croissance mondiale a considérablement ralenti depuis et la hausse des tarifs douaniers n'a rien fait pour arranger les choses. La menace d'une récession globale montrait donc en flèche. C'est évidemment ce que redoutent les marchés financiers, d'où leur baisse vendredi, qui pourrait bien se poursuivre aujourd'hui. Le problème, on le sait, c'est qu'un krach boursier aurait forcément lui aussi un fort impact sur l'économie réelle et son financement. Il faut donc espérer, David, que les hostilités cessent rapidement. La balle est dans le camp de Donald Trump, une fois de plus, ce qui n'est pas forcément rassurant.
L'éditorial de François Vidal avec les Échos, qui titre ce matin Le Bourget, les nouvelles batailles du ciel. On en reparlera d'ici 9h. À suivre, les voix de l'économie avec Jacques Maire pour évoquer l'exposition universelle d'Osaka. Mais pour l'heure, il est 7h13. Voici l'essentiel de l'économie. À la une ce matin, coup d'envoi du salon aéronautique du Bourget, avec cette année une très forte attention pour les activités militaires et spatiales. La multiplication des conflits et le réarmement de l'Europe doivent en effet entraîner de grosses commandes dans les prochaines années. En revanche, pour l'aéronautique civile, le salon risque d'être assombri par le crash d'un Boeing d'Air India la semaine dernière. La succession est ouverte à la direction de Renault. Luca De Meo, directeur général depuis 5 ans, a annoncé son départ. Il sera effectif à la mi-juillet. Le président du groupe, Jean-Dominique Sénard, souhaite organiser la succession au plus vite. Renault doit en effet présenter son plan stratégique au mois de novembre. Le conclave sur la réforme des retraites s'achève cette semaine. Dernière réunion demain matin. La CFDT et le MEDEF estiment à 50% les chances de trouver un accord sur les retraites. Le maintien de l'âge de départ à 64 ans semble pratiquement acquis.
les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie.
Avec Fortuneo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortuneo, j'aime ma banque.
Stéphane, votre invité ce matin, c'est le commissaire général du Pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka.
Bonjour Jacques Maire.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la vitrine de la France à l'occasion de l'Expo universelle d'Osaka depuis le 13 avril et jusqu'au 13 octobre, avec déjà une très belle fréquentation, puisque le cap des 2 millions de visiteurs sur le pavillon, je crois, devrait être franchi début juillet.
C'est ça, exactement. Ouais. On est à 30 000 personnes par jour.
Dans un contexte géopolitique compliqué, se déroule cette exposition universelle. Face à la fragmentation du monde et à la multiplication des conflits, la France a choisi de délivrer un message d'amour à travers son pavillon. Pourquoi ce choix ?
Traditionnellement, les expositions universelles sont plutôt l'occasion de célébrer le progrès technique, la science, l'industrie. Voilà, et on pense qu'aujourd'hui, le débat public qui traverse notamment la jeunesse est plutôt lié à l'interrogation quant à l'avenir via la crise sociale, à cause de la crise environnementale. Voilà. Et donc on s'est dit, pour répondre à la question des Japonais, imaginez la vie de demain, que si on veut proposer une vie qui ait un sens, le plus beau sens de la vie, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-tech, anti-industrie, mais on veut que le message soit bien clair, c'est-à-dire que la technologie et l'industrie doivent être au service de l'homme et de la nature.
Derrière ce message d'amour, la France souhaite surtout lancer un appel au dialogue, à la coopération, à la solidarité. Dans le contexte actuel, c'est un pari, on va dire, audacieux.
C'est un pari audacieux, c'est un pari nécessaire. C'est vrai que la plupart de nos collègues des pavillons étrangers ont comme thématique la conquête spatiale, l'économie circulaire, les vaccins, ou mon pays est le plus beau de pays touristiques, c'est très vrai. Et d'ailleurs, on est là pour vendre son pays. On a pensé qu'on toucherait beaucoup plus, en fait, les gens, en ayant une approche finalement émotionnelle, artistique, mais au service d'un message de valeur. Et finalement, le public a compris.
Est-ce que vous auriez fait le même choix si l'Expo universelle ne se déroulait pas au Japon ?
Alors, la thématique est universelle, l'amour. En revanche, la façon de l'exprimer, elle a été totalement conçue pour un public japonais, même si des Français et ceux qui viennent comprennent le message. Ça veut dire, par exemple, qu'au niveau de la scénographie, mais même au niveau des installations, au niveau de l'esthétique et des symboles, on est dans la coopération franco-japonaise, on est dans des symboles japonisants.
Parler d'amour aux Japonais, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? C'est une population très pudique au Japon. À peine 20% des hommes sont en couple et 27% pour les femmes.
Oui, alors c'est compliqué, notamment parce qu'il y a une crise, comme vous le dites, de l'amour et qui se conduit comme une crise aussi de la nuptialité. Et on le dit, nous d'ailleurs, cette crise de l'amour est une crise qui est liée au rôle des femmes. Et j'ai eu l'occasion de dire à un ministre pakistanais entouré de 14 collègues, voilà, tous masculins, qu'un pays dans lequel les femmes ne sont pas heureuses est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc on s'adresse naturellement aux hommes et aux femmes, et on leur dit une chose très simple, hein, c'est puiser dans vos fondamentaux, puiser dans vos ressources culturelles, votre patrimoine, projetez-vous vers l'avenir, on a les capacités à dépasser cette crise. Et c'est intéressant parce que juste au début où on avait créé cette ligne éditoriale, il y avait une grande exposition à Tokyo, du Louvre, qui s'intitulait Love, L-O-V-E. Et cette exposition a montré un formidable succès auprès du jeune public. Ça nous a convaincus.
Alors vous l'avez souligné, vous dites souvent les expos universelles sont l'occasion de montrer la vitrine, d'être la vitrine technologique d'un pays. Là, vous avez vraiment pris le contre-pied puisqu'il n'y a pas d'écran sur le pavillon. Là, c'est un choix audacieux, en particulier au Japon, un pavillon sans aucun écran. Je crois qu'il n'y en a qu'un, il est d'une télé de taille normale.
Oui, alors il y a un seul écran immersif parce qu'on a voulu montrer du spectacle vivant. On peut pas faire danser des gens toute la journée pendant 6 mois, et donc mais on est à un échelle.
Mais en tout cas, ça n'est pas une vitrine technologique.
Voilà, il y a pas d'écran en fait, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a des écrans partout. Donc l'écran est banalisé. Alors comment est-ce qu'on fait pour représenter la technologie dans la scénographie ? Eh ben par exemple, on a des nuages de LED qui font des centaines de milliers de points lumineux qui ne sont pas effectivement photoréalistes, mais qui décrivent des émotions, qui décrivent des symboles et qui accompagnent et qui renforcent le message des œuvres d'art.
Qu'est-ce qu'on peut y voir en termes de programmation dans ce pavillon France pour ceux qui auront la chance de se rendre à Osaka ?
D'abord, une exposition immersive qui permet de traverser 8 tableaux qui sont des tableaux d'un voyage au pays de la France, de ses territoires et de ses savoir-faire. Vous passez, par exemple, des toits de Paris sur un ballet de Presles-Lockage, jusqu'à un jardin miraculeux avec un olivier millénaire. Vous passez dans les sous-sols de l'Alsace avec une grappe de raisin géante qui pulse sur la musique de Rhône. Vous terminez par un espace Dior qui montre un petit peu cette capacité créative dans les formes. Et puis vous avez une immense finale sur la relation franco-japonaise avec des monuments, par exemple, Notre-Dame et le château de Shuri qui ont brûlé ensemble en 2019 et qui sont reconstruits dans une démarche scientifique dans laquelle ils coopèrent. Voilà, ça c'est très important. Et puis vous avez des journées spéciales, 14 juillet, 13 septembre, journée de la France, dans lesquelles on fait résonner des artistes, des symboles, à l'échelle non pas uniquement du pavillon, mais de l'ensemble de l'exposition, et ça va être formidable.
On va parler un peu d'économie avec le financement de l'opération. L'État contribue à hauteur de 42,5 millions d'euros. Les partenaires privés contribuent également de manière importante, notamment AXA et LVMH qui apportent 13 millions d'euros. Je crois qu'il y a 4 partenaires au total. Vous êtes à la recherche aussi de financements complémentaires ?
Alors, il y a une cinquantaine de partenaires.
Mais il y en a 4 principaux sur votre site.
Exactement, il y en a 4 principaux. LVMH, on l'a dit, AXA, une biotech s'appelle Ninapharm, et quelque chose de très intéressant.
Et les vins d'Alsace.
Oui, 3000 vignerons alsaciens qui, ensemble, voilà, veulent se projeter au Japon. Alors oui, on arrive avec un budget total, on atterrit à 58 millions. On aura probablement un déficit de l'ordre de 1% du coût du budget. 1% de déficit probable, possible, hein, on n'est pas encore à la fin, c'est pour moi quelque chose qui relève d'une bonne performance, parce que c'est construire en moins de 2 ans un pavillon à l'autre bout du monde, dans un pays extrêmement coûteux, en droit étranger, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Et surtout, l'investissement est rentable, puisqu'on voit l'impact du pavillon, il est quand même extraordinaire.
Est-ce qu'on est capable justement de chiffrer les retombées économiques d'une telle opération ?
Alors, premier élément, c'est les entreprises sont rationnelles. Quand elles investissent au total une douzaine de millions, mais probablement nettement plus quand elles investissent pour leur propre contrepartie, pour leur propre visibilité, on est probablement peut-être pas loin du double, ça veut dire qu'elles y croient. Donc, le juge de paix, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y crois. Deuxième élément, c'est la visibilité. C'est un investissement de visibilité. Pour vous donner une petite idée, en ne parlant que des chiffres du Japon, on est à plus de 11 milliards de vues sur le web, sur le print et sur les télévisions. On est à plus de 22 millions d'euros de retombées d'équivalent espace publicitaire pour la communication. Et dernier élément que vient de m'indiquer cette semaine Madame Delattre, la ministre du Tourisme, depuis le début de l'expo, les réservations depuis le Japon vers la France pour les visiteurs ont augmenté de 25%.
Donc même s'il est difficile de chiffrer les retombées avec précision, les retombées, vous nous dites, sont importantes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Jacques Maire, commissaire général du pavillon France à l'Expo universelle d'Osaka.
Merci. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Ça commence dès 6h sur Radio Classique. Dans 2 minutes, les coulisses de la politique. La commission d'enquête parlementaire sur TikTok est un fiasco. À trop jouer les procureurs, nos parlementaires se prennent les pieds dans le tapis avec les influenceurs. Mais tout de suite, Karine Dijoux, et si on parlait français ? Bonjour Karine.
Bonjour David.
Aujourd'hui, on va parler des Olorim, qui ne sont pas des extraterrestres attendus par une secte étrange, mais une façon de tourner des vers en fait.
Oui. Les vers Olorim sont des vers qui se prononcent exactement de la même façon, mais qui sont formés de mots différents. Dans les vers classiques, seules les syllabes finales seront similaires.
Vous avez des exemples de vers Olorim ?
Oui, alors un exemple de Marc Monnier. Gal, amant de la reine, ala, tour magnanime. Et ensuite, la deuxième phrase, c'est Gal amant de la reine à la tour magnanime. Dans la première phrase, on a Gal, c'est un prénom, c'est l'amant de la reine, donc elle trompe son mari, et il va, tour magnanime, donc de manière magnanime, c'est-à-dire par grandeur d'âme. Et dans la deuxième phrase, on a galamment, c'est l'adverbe formé sur l'adjectif galant, on a la reine L apostrophe, et ensuite on a la tour magne que vous connaissez certainement, qui est localisée à Nîmes.
En clair, on prend une phrase, si on découpe les syllabes sans changer l'ordre, oui, on a deux sens totalement différents.
Oui. Alors, c'est vraiment difficile à écrire. Hein. Bravo aux auteurs.
On en prend un autre très court de Philippe Guéluc.
Oui. Ma femme, oui, donc son épouse, ma femme.
Bah oui.
Du sens affamé et provoquer sa faim. Ça, j'aime beaucoup.
Il y a aussi un film où quelqu'un dit « tu es infâme » et on lui répond « non, je suis une femme ». C'est presque un holorime.
Oui, en effet, on joue un peu là-dessus.
Un autre holorime d'Alphonse Allais, dites-nous.
Oui, donc je vais vous lire juste un couplet. « Laisse aussi sombrer tes déboires et dépêches, l'attrait, puissance, une omelette au lard nourrie. » Et ensuite, on a « lait, saucisse, ombre, thé, des poires et des pêches, là, très puissant, un homme laiteux, lard nourri. » Donc vous voyez, c'est pas exactement similaire, mais je vous conseille d'aller regarder ce poème d'Alphonse Allais qui a été écrit en 1898 et vous verrez une démonstration exceptionnelle de l'orime.
À demain, chère Karine.
À demain.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Vous avez plus de 50 ans et cherchez à financer un projet ? Hippo, leader du crédit hypothécaire, vous permet d'utiliser votre patrimoine détenu comme levier de financement. Ainsi, Jean-Pierre, 65 ans, a pu acheter son locatif à Nice grâce à un crédit sur 20 ans sans mettre d'apport et sans avoir à souscrire à une assurance. Vous avez besoin de financer des projets IMO ou de trésorerie ? Appelez-nous au 01 89 62 38 10 ou rendez-vous sur www.hippo.imo. Hippo, la finance patrimoniale.
Cuisine Ixina présente son offre. Jusqu'à 6 électro offerts.
Ah super !
Oui, enfin c'est maintenant ou jamais. Hein.
Eh ben je pars, là tout de suite.
T'es en pyjama, chérie.
Bah, tu veux que j'aille nu ?
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Ixina.fr.
Ixina. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon chaque jour à 17h sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Marcelo Westfred à 7h27 pour les coulisses de la politique. Marcelo Westfred du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur TikTok a donné lieu la semaine dernière à des scènes assez surprenantes et peu flatteuses pour nos parlementaires. En coulisses, beaucoup d'entre eux estiment que l'outil de la commission d'enquête est en train d'être dévoyé.
Oui, alors revenons déjà à ce qui s'est passé. Mardi dernier, la commission d'enquête a auditionné 5 influenceurs. Alors le but de cette commission d'enquête, c'est de comprendre l'effet psychologique sur les jeunes du réseau le plus utilisé par les adolescents. Et cette instance, elle est présidée par le député socialiste Arthur Delaporte, qui a choisi ce jour-là de convoquer des profils d'influenceurs très suivis, mais controversés. Enfin, convoqué, David est le mauvais terme, puisqu'il a accepté, Arthur Delaporte, à aller savoir pourquoi, parce que ça ne se fait absolument jamais, que ceci s'exprime par visioconférence. Ça a commencé par Alexis Chenz, par exemple, qui a pris la parole à distance, producteur de contenu considéré comme masculiniste. Or, comme il n'a pas aimé les questions des députés, il a fini par raccrocher au nez des parlementaires en disant « au revoir, bonne journée ».
Il les a plantés, j'ai vu la séquence, c'était surréaliste.
Entre parenthèses, il risque des poursuites, ce monsieur. Un autre bien connu des jeunes pour ses mises en scène où il distribue de l'argent a demandé aux députés combien il gagne. où il a lancé un élu. Mais c'est quoi ces questions ?
Et ces scènes, elles ont été évidemment relayées sur TikTok et sur les réseaux sociaux.
Et oui, puisque les influenceurs sont des spécialistes du clash et de la mise en ligne de ces vidéos. Alors, ils se sont pas gênés. Et du coup, ils ont pris au piège l'Assemblée. On n'a jamais eu autant de reprises sur les réseaux sociaux, m'a rapporté un cadre de l'Assemblée. C'était une ânerie de les inviter. Delaporte a voulu se faire de la publicité. Ça s'est retourné contre la commission d'enquête. Une autre figure de l'Assemblée renchérit. Ces influenceurs, ils n'ont aucun respect pour le Parlement et se disent que c'est une arène de branquignoles. Fin de citation. Même le président de la commission, Arthur Delaporte, que j'ai eu hier soir au téléphone, le reconnaît. J'ai peut-être péché par optimisme, mais si c'était à refaire, je ferais ces auditions en présentiel et à huis clos pour éviter qu'elles ne servent à faire du buzz.
Alors, ces auditions sur TikTok, elles servent à quelque chose ou pas ?
On verra, parce qu'en tout cas, les organisateurs se défendent en disant qu'il faut donner la parole à tout le monde pour comprendre ce qui se cache derrière les algorithmes de TikTok. Aujourd'hui, ce sont des cadres du ministère de la Santé qui seront interrogés. Demain, mardi, des responsables d'Instagram et de Facebook. Il faudra attendre, David, septembre pour avoir le rapport final. En attendant, le réseau chinois réunit en France 15 millions d'utilisateurs chaque mois et fait l'objet du plus grand nombre de signalements pour son impact sur la santé mentale.
À demain, Marcelo, pour les coulisses de la politique. Tout de suite, le temps. Charles Bonner, bonjour.
Bonjour David.
Va faire beau, disons les choses.
Oui, une journée ensoleillée, sauf sur les bords de la Manche et des températures qui grimpent jusqu'à 25 degrés à Lille, 27 à La Rochelle et 33 à Montpellier.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin, la méthode d'un centre à Barcelone pour aider les enfants atteints de handicap à stimuler leur capacité motrice en les aidant à rester debout. Entre l'Iran et Israël, une quatrième nuit de frappe, le chef du renseignement iranien est mort. Les États-Unis se sont opposés à une opération contre le guide suprême. Et puis entre les syndicats et le patronat, la dernière ligne droite de la négociation sur les retraites. Dernier point de blocage, la pénibilité.
Après le journal L'Écho du Monde, le journal Imprévisible et puis David Barou qui nous parle du Salon du Bourget, une vitrine de l'aéronautique française. C'est un programme pour stimuler les capacités motrices.
2500 enfants handicapés accueillis tous les enfants à Barcelone par le centre Metodo et Santis. La plupart de ces enfants sont français avec une méthode verticalisée. Ça veut dire des exercices debout, quel que soit le degré de handicap. Laura Calmussier, rendu pour Radio Classique.
En ouvrant le centre Essentis à Barcelone, Frédéric Guez s'est donné une mission, défier les pronostics. Ostéopathe de formation, il rêve que tous les enfants, souvent polyhandicapés, puissent un jour marcher. Et pour lui, tout repose sur la répétition.
Un enfant ne progressera pas, vous pouvez avoir le meilleur kiné que vous voulez, en France ou ailleurs. S'il prend en charge votre enfant une demi-heure ou 40 minutes, il n'arrivera pas à un résultat.
Ici, les thérapeutes se sont adaptés à leur public. Près de 100% des patients sont français. Parmi eux, Céline Bassette, venue de Tours. Elle troque régulièrement ses vacances pour offrir à sa fille de 8 ans ce que la France ne propose pas.
C'est au bout du 5e ou 6e séjour que notre fille elle a commencé à marcher, alors qu'on nous avait dit qu'elle ne marcherait jamais.
Accrochée à son cadre de marche, Élise, 5 ans, avance prudemment sous le regard fier de sa maman Delphine.
C'est les premiers à l'avoir mise dans un déambulateur et à lui avoir fait faire des pas. On est accompagné toute l'année par des kinés et on a une progression douce. Mais quand on vient ici faire de l'intensif, vraiment il y a une progression rapide.
Une progression rapide mais fragile, sans entraînement continu, le corps peut oublier aussi vite qu'il a appris.
Le reportage de Laura Calmus.
Ils arrivent les uns après les autres au Canada.
Les dirigeants du G7, Emmanuel Macron hier soir, Donald Trump ce matin, réunis dans les Rocheuses, dans un coin isolé entre les montagnes, les forêts et les rivières, avec plusieurs invités, le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Ukraine, pour évoquer les droits de douane, la guerre en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, qui connaît sa quatrième nuit de frappe entre Israël et l'Iran. Au moins 17 morts en Israël, dont 4 cette nuit, 224 en Iran. Israël qui vise les dirigeants iraniens. Le chef du renseignement est mort. Une opération contre le guide suprême n'a pas reçu le soutien des États-Unis. Ralentir le programme nucléaire et affaiblir le régime, ce sont les objectifs selon la politologue franco-iranienne Manas Chirali.
Les Israéliens, ils ont déjà coupé les mains de la pieuvre et là maintenant c'est la tête qu'ils visent. Le ministère de renseignement iranien s'est effondré. Les nouveaux chefs de l'armée qui ont été désignés par Khamenei, trois d'entre eux à nouveau, ils sont morts. Une armée qui n'a pas de tête, comment elle peut tenir? Cette manière aveugle d'envoyer des missiles à droite et à gauche sans savoir, sans pouvoir viser, pour moi, ce n'est pas un signe de puissance, c'est un aveu de faiblesse. L'armée puissante est celle qui tue 24 généraux de l'armée rivale en une seule frappe. C'est ça la force.
Propos recueillis par Eric Kioch. Aux États-Unis, le suspect est arrêté, recherché depuis deux jours pour le meurtre d'une élue démocrate et de son mari et pour l'attaque contre un autre élu et sa femme, tous deux toujours hospitalisés. L'homme de 47 ans a été arrêté sans usage de la force selon la police.
Il reste 30 minutes avant l'épreuve de philosophie.
Une institution du bac, 4 heures pour plancher au choix sur deux dissertations ou un commentaire de texte. 530 000 candidats sont aujourd'hui avec cette épreuve de philosophie. À partir de demain, ce sera au tour des épreuves de spécialité. Comment définir la pénibilité? Ce n'est pas un sujet du bac, mais le cœur de la discussion entre syndicats et patronats. La fin de leurs négociations s'est prévue demain, avec 50% de chances qu'un accord soit trouvé, selon la CFDT et le MEDEF. La discussion ne porte plus sur l'âge de départ. Il va rester à 64 ans. Les syndicats sont prêts à céder, à condition d'avancer en matière de pénibilité. Zoé Pallier.
Le patronat a fait un premier pas, il accepte d'intégrer trois nouveaux critères pour mesurer les risques d'usure professionnelle, à savoir le port de charges lourdes, les postures pénibles et l'exposition à des vibrations. Mais contrairement à la demande des syndicats, ça ne donnerait pas le droit à un départ anticipé en retraite, mais plutôt à des aides à la formation et à la reconversion. La Confédération des petites et moyennes entreprises propose aussi un rendez-vous médical à 59 ans. Il n'y a pas assez de médecins, rétorque la CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui plaide par ailleurs pour mieux prendre en compte les risques psychosociaux d'épuisement professionnel. Il y a en revanche un consensus pour distinguer carrière longue et carrière pénible. Ça veut dire, schématiquement, être plus généreux avec un salarié qui travaille à l'usine depuis ses 21 ans qu'avec un autre qui aurait commencé plutôt, mais à un poste moins usant physiquement.
Zoé Pallier, c'est une surprise dans le monde de l'automobile. Lucas Demeo, le directeur général de Renault, va quitter ses fonctions. Direction le groupe de luxe Kering dans un mois, le 15 juillet. Une annonce qui a pris de court les spécialistes de la filière. C'est le cas de Arnaud Aimé du cabinet SIA.
Ce départ de Luca De Meo, c'est une vraie surprise. Il a réussi le redressement de Renault toute sa carrière. Ça a été ce qu'on appelle un cargaille, spécialisé sur le secteur de l'automobile entre Fiat, Volkswagen Seat et ensuite Renault. Au bout de 5 ans, on peut considérer que Luca De Meo, il a rempli sa mission en remettant Renault sur de bons rails après une période très difficile en 2020. Aujourd'hui, il est retourné à la rentabilité. Il a normalisé les relations avec Nissan et puis il a réussi à sortir des modèles qui sont tout à fait désirables vu du marché.
Arnaud Aimé avec Eric Mauban. Le salon du Bourget débute aujourd'hui. C'est le plus ancien et le plus grand rendez-vous de l'aérospatiale, une 55e édition, sans le patron de Boeing qui a annulé sa venue après le crash d'un appareil en Inde. En Turquie, le procès du principal opposant du président Erdogan se tient aujourd'hui. Il s'agit d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, poursuivi pour menace contre un procureur. Jeanne Serrin, il risque une peine d'emprisonnement.
Il n'y a pas de place pour le désespoir, écrit Ekrem İmamoğlu dans un post publié sur son compte X, tout juste réactivé ce week-end après plus d'un mois de blocage par les autorités. Une décision prise en mai dernier après un nouveau rassemblement de l'opposition à Istanbul en soutien au maire de la ville. Arrêté le 19 mars dernier pour corruption et terrorisme, le principal opposant de Recep Tayyip Erdogan conteste ces accusations et toutes les autres auxquelles il fait face. Manipulation d'appels d'offres, donation illégale lors de la dernière campagne pour les municipales. Des attaques sans fondement, dénonce l'opposition qui y voit surtout un coup d'État de la part du régime. Ekrem İmamoğlu étant devenu la bête noire d'Erdogan pour d'abord avoir repris en 2019 la mairie d'Istanbul aux mains du parti du président turc, l'AKP, mais surtout pour sa popularité. C'est lui
qui a été choisi pour représenter le principal parti d'opposition à la prochaine présidentielle. Une élection dont compte bien le priver, Erdogan, en multipliant ses recours en justice.
Et Ekrem İmamoğlu risque l'inéligibilité dans son procès pour corruption dont la date n'est pas fixée. Et puis la domination continue sans partage en saut à la paire. Charmant Duplantis a battu le record du monde, 6m28. Hier, encore battu, c'est la 12e fois. Et c'était à Stockholm, en Suède, le pays qu'il représente.
6m28, c'est 3 fois la hauteur sous plafond du studio. C'est incroyable. Et il a réussi du premier coup, le français Armand Duplantis.
Non, pas le français, le suédois.
Le suédois, pardon. Le suédois. À tout à l'heure, hein, pour le rappel des titres. À suivre, Christian Macarian, qui nous parle évidemment de l'extension du conflit entre Israël et l'Iran et des risques d'escalade si on n'est pas déjà dans l'escalade. Radio Classique, 7h38.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous n'êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dès 2h matin, voire conditions sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Écoutez, monsieur Martin, je suis obligé de faire le mort en ce moment. Notre trésorerie est au plus mal, et puis vous êtes vraiment pas le seul à qui je dois de l'argent. Bon, je sais, ça fait pas plaisir, mais je vous demande juste un peu de patience, c'est pas compliqué.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Que diriez-vous d'une petite pause musicale en bord de mer ? Radio Classique et les Thermes Marins de Saint-Malo vous invitent à 5 jours de détente. Laissez-vous tenter par les bienfaits de la thalassothérapie et profitez de soirées musicales en compagnie d'Ève Ruggieri et d'artistes d'exception. La Thalasso Musicale Radio Classique du 23 au 28 novembre au Terme Marin de Saint-Malo. Réservation au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso-saintmalo.com.
Le PEA Fortuneo a été élu meilleur plan d'épargne en action 2025. Fortuneo, j'aime ma banque. Source Avenue des Investisseurs, février 2025. Détails de l'étude et conditions tarifaires sur fortuneo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. Et avec Fortuneo, retrouvez les voix de l'économie avec Stéphane Pedrazzi à 7h15 dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Christian Macarian à 7h41 pour l'écho du monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
Tandis qu'Israël poursuit son opération Rising Lion, qui se traduit par des bombardements de plus en plus étendus, 3 questions se posent sur la suite de ce conflit. Premièrement, faut-il craindre un risque d'embrasement au Moyen-Orient et au-delà ?
Alors, c'est peut-être moins l'embrasement proprement militaire qu'il faut redouter que la déstabilisation globale. Faisons un tour d'horizon rapide. Les pays arabes, par exemple, sont tétanisés. En théorie, l'Arabie Saoudite pourrait se réjouir de voir son vieil ennemi mis à genoux par Israël, puisque la République islamique d'Iran, Iran chiite, a tant de fois cherché à déstabiliser la patrie sunnite des lieux saints de l'islam. Mais autant Riyad que les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, redoutent de devenir maintenant des cibles pour les missiles iraniens. Les Européens, eux, avancent totalement dispersés, sous la menace de devenir à leur tour la cible également d'un terrorisme qui pourrait frapper aussi bien des positions extérieures des Européens que leur sol national, aussi bien des individus aussi que des institutions. L'Iran a montré qu'il savait y faire. Au passage, je tiens à rappeler que 2 otages français, Cécile Collère et Jacques Paris, sont toujours enfermés en Iran.
Alors, cette opération a été déclenchée parce que l'Iran possède désormais beaucoup d'uranium enrichi. C'est la raison pour laquelle l'opération a été déclenchée. Alors, est-ce qu'elle va permettre de mettre fin aux ambitions atomiques de l'Iran ?
Franchement, on peut en douter. D'abord, l'aspect fortifié de Natanz, ce centre d'enrichissement d'uranium, recouvert de 25 mètres de béton, ou l'autre site d'enrichissement qui est celui de Fordo, celui-là recouvert par une couche de béton de 80 mètres d'épaisseur, eh bien, présente des caractéristiques très difficile à égaler pour détruire des sites aussi complexes. Israël peut retarder incontestablement le projet nucléaire iranien, c'est largement déjà fait. Mais quant à l'éradiquer, c'est une toute autre affaire. Il faudrait, pour détruire Natanz ou Fordo, l'appui, par exemple, des fameuses bombes américaines dites « bunker buster » ou « bombes pénétrantes ». Ce qui impliquerait évidemment les États-Unis, alors que Donald Trump a promis et juré à son électorat de ne plus s'impliquer dans de nouvelles guerres. Donc il y a une contradiction chez les Américains. Quant au « regime change », au changement de régime avancé par certains officiels israéliens, il pose le problème du rapport, là encore, entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Donald Trump s'est opposé, on le sait, à ce que l'on touche au guide suprême, Ali Khamenei. Or, un officiel iranien qui reste anonyme a fini par confesser que cet officiel n'était pas hors d'atteinte. Je parle de l'ayatollah Khamenei, bien sûr. Peu importe, le résultat, c'est que Khamenei sait qu'il est désormais complètement vulnérable. En fait, face à Israël comme face à Poutine, Donald Trump est relativement en position de faiblesse.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de régime ?
Pour l'instant, il est difficile de tirer une conclusion pareille, mais regardons ce que l'histoire nous a enseigné. En Irak, en 2003, le renversement de Saddam Hussein. En 2011, en Libye, l'élimination de Kadhafi n'ont pas abouti, c'est le moins qu'on puisse dire, à des améliorations ni à des clarifications. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Alors, le régime change reste un objectif qui a été clairement annoncé par Benjamin Netanyahu, puisque Netanyahu s'est adressé en anglais au peuple iranien en l'invitant à se soulever. Mais franchement, on peut tous y assister à un réflexe nationaliste en Iran, à un resserrement, en tout cas incontestablement, à un durcissement du régime.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde, à suivre le journal imprévisible. Le G7 commence aujourd'hui au Canada, le Canada une passion française, avec Marc Bourreau, Radio Classique, 7h45.
Pour accélérer votre performance, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Valtus, c'est 9 filiales dans 24 pays avec un objectif, votre réussite. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les entreprises dans leurs défis les plus complexes. Ensemble, relevons les vôtres. Partenaire de l'Édito Éco, Valtus façonne vos succès partout dans le monde.
Ça a glissé, la voiture se retrouve dans le fossé.
Quand Stéphane a eu son accident, Maxime, son agent mutuel de Poitiers, était là pour lui.
Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. T'es pas tout seul, en fait.
Et là, à partir de là, déjà, la pression commence à redescendre, quoi.
C'est un père de famille, il a sa femme, sa fille sur le bord de la route. On se met à leur place parce qu'on les connaît et qu'on les voit plusieurs fois par an. Donc, c'est à partir du moment où on les connaît le mieux qu'on les assure le mieux, quoi.
Et c'est ça le gros point fort, en fait. Je suis une personne, je suis pas un numéro de contrat.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Cuisine Ixina présente son offre, jusqu'à 6 électro offerts.
Ah super !
Oui, enfin c'est maintenant ou jamais. Hein.
Eh ben je pars là tout de suite.
T'es en pyjama chérie.
Bah, tu veux que j'aille nu ?
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr. Ixina.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé,
j'agis.
Entreprise, j'agis pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon chaque jour à 17h sur Radio Classique.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau à 7h47. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Emmanuel Macron est en route pour le Canada. Le président français participe jusqu'à demain au G7, un sommet pour évoquer les grands dossiers géopolitiques, mais aussi consolider les liens avec nos cousins canadiens, auxquels vous rendez hommage ce matin dans votre journal imprévisible.
Et oui, la France et le Canada, David, s'apprêtent de nouveau à célébrer les liens qui les unissent. À commencer par cet hymne anglais et français, un pays bilingue, encensé par les premiers ministres canadiens successifs, l'actuel chef du gouvernement, Marc Carney.
La culture et la langue française font partie de notre identité partout au Canada.
Une trace de fraternité aussi chez Pierre-Éliott Trudeau et son fils, Justin.
C'est un plaisir incroyable de pouvoir œuvrer à tes côtés. Merci, mon cher ami.
Merci, cher Justin.
Et oui, une langue et une amitié partagées en France d'Emmanuel Macron à Nicolas Sarkozy.
Les Français éprouvent un sentiment de familiarité, comme si ces formes, ces mots, ces sons, ces paysages s'adressait à une part mystérieuse de nous-mêmes.
Les mystères de l'euphorie pour les quelques 22% de francophones du Québec, David, quitte à fâcher le reste du pays. Souvenez-vous du général de Gaulle à Montréal en 1967.
Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre !
Nous irons à Toronto en auto. Nous irons à Montréal à cheval.
Et oui, on ne s'en remet pas de cette histoire franco-canadienne. Le Québec, héritier de l'explorateur Jacques Cartier, de la fondation de la Nouvelle-France par Samuel de Champlain, avant d'être chassé par les Anglais. Le Québec, ce voyage, cette curiosité pour Charles Trenet, destination favorite des expatriés français, parenthèse politique aussi. Souvenez-vous d'Alain Juppé et son séjour d'un an après ses affaires judiciaires.
Un jour, je me retrouve dans une espèce de fast-food, sur le bord de l'autoroute, et je mange mon hamburger tout seul, à 6000 km de Paris, et tout d'un coup je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et alors j'aurais pu tomber dans la déprime la plus profonde, et je me suis dit, mais c'est formidable, non, ça t'arrivera jamais plus, d'être comme ça, libre comme l'air, dans l'anonymat, profites-en.
Quand du fond du Québec, les couleurs se bourgeonnent, moi je crois bien que c'est la neige qui s'épleure et frissonne.
Alain Juppé ou la tentation du hamburger.
Et ses ambitions intimes, effectivement. La France et le Québec, c'est un poème de Balavoine, David. Et c'est une culture qui traverse l'Atlantique. Le cinéma de Xavier Dolan, le rire de Charlotte Lebon et Stéphane Rousseau, la littérature, enfin, de Jack Kerouac, héritier lointain d'une famille bretonne et lecteur francophone très exigeant.
Je trouve que le plus grand écrivain du monde, c'est Louis-Ferdinand Céline. Parce qu'il a écrit les grandes épopées de la vie moderne, mieux que Sartre, Camus, Malraux et Mauriac. Moi, je dis que les grands écrivains, ils gagnent jamais les grands prix.
J'aurais voulu être un artiste.
Mais quand la France et le Canada collaborent, ça donne pourtant des grands prix, David. Avant Notre-Dame de Paris, avant Garou, Natacha Saint-Pierre, il y a eu Starmania, évidemment, Balavoine, Fabienne Thibault et Claude Dubois ne se seraient jamais côtoyés sans le tandem franco-canadien Michel Berger et Luc Plamondon.
C'était un défi que j'avais à relever, c'est-à-dire d'écrire un spectacle qui soit compris par toute la francophonie. Il n'y a pas d'expression québécoise dedans, mais il n'y a pas d'argot français non plus.
Que dire aussi de cette alchimie parfaite entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, deux albums francophones le plus vendus au monde, des fans en furie.
Céline, on t'adore.
Céline, des fans en furie, mais qui laissent Céline Dion sur un point d'interrogation.
Je vais vous dire, là, je pense que ça fait 15 ans que j'essaie de comprendre comment ça se fait que je parle avec un accent, puis quand je chante, j'en ai pas. Je peux même pas vous répondre, je sais pas pourquoi.
Eh oui, le Canada en général et le Québec en particulier. C'est un rapport très particulier donc avec la langue française, celle qui fait la chasse aux anglicismes dans les titres de films. Kill Bill devient Tuer Bill, Pulp Fiction devient Fiction pulpeuse et Grease devient Brillantine. Le Québec, ce sont enfin des dialectes comme le joual popularisé par Robert Charlebois qui nous le rappelle encore aujourd'hui, si nos chers cousins canadiens n'étaient pas en fait les derniers défenseurs de la langue française.
J'entends beaucoup de jeunes groupes français chanter en anglais. Et la plupart du temps, c'est des gens qui seraient incapables de demander leur chemin dans le métro à New York. Quand j'ouvre un magazine français et que les Françaises, ils font le Fashion Week, discount, ils portent des leggings puis des strings puis ils s'achètent des choses, moi, ça me désole à chaque fois. Je trouve que si on touche à ma langue, je mords et que le français mérite d'être bien parlé avec toutes les couleurs et les accents.
Je reviendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval.
Quand est-ce qu'il entre à l'Académie française, Robert Charlebois?
Mais il aurait toute sa place à l'Académie française. Hein. Il a tout compris de la défense de la langue française.
Quand je touche à mon français, je mords, dit-il. Quand on touche au journal imprévisible, on mord aussi, nous, à Radio Classique. Vous revenez demain, Marc Bourreau, dans un instant, David Barou, le décryptage, Radio Classique, 7h53.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassés. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec David Barou à 7h54 pour le journal, pour le décryptage oui. de l'économie. Bonjour David.
Bonjour David.
C'est lundi, il faut oui. me pardonner. Ouais. Alors, pardon. Que faut-il attendre du Salon du Bourget? C'est de cela dont oui. vous allez nous parler, le Salon du Bourget qui ouvre ses portes aujourd'hui.
Bah, déjà David, je pense qu'il faut se réjouir parce que le Bourget qui fête cette année quand même sa 55e édition, bah, c'est une bonne nouvelle pour la France. C'est pas un hasard hein, si le plus grand salon de l'air et de l'espace avec celui de Farnborough qui se tient chez nous, une année sur deux. C'est le signe que dans l'aéronautique, la France reste une grande puissance. On accueille le monde, mais on met aussi en avant nos forces, comme Airbus, Dassault, Thales, Safran, Ariane Espace, pour ne citer que les plus grands. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec le luxe, l'aéronautique, ça reste notre plus gros contributeur en termes d'exportation. Enfin, le Bourget, c'est un côté business, mais ce sera aussi tout le week-end prochain un événement grand public, parce qu'il y a chez nous un engouement pour tout ce qui s'envole.
Alors, comment s'annonce ce salon sur le front commercial?
Le Bourget, vous savez, c'est un mélange de défense et de civils. Cette année, le côté kaki va forcément prendre un petit peu le dessus. Airbus va quand même signer de grosses commandes. Boeing, qui vient d'essuyer un crash en Inde, peut-être un peu moins, car l'esprit n'est pas à la fête. Mais le contexte est quand même avant tout porteur pour l'activité militaire. On a le retour des conflits, on constate encore ce week-end, hein, entre l'Iran et Israël, le rôle absolument central du contrôle de l'espace aérien. Donc partout, les budgets de défense sont orientés à la hausse, et en particulier dans l'aéronautique, parce que en plus, on est à une période de rupture technologique dans ce domaine. Avec les drones et l'intelligence artificielle, tout ce secteur est à l'aube d'une véritable révolution. On volera plus du tout de la même manière dans sans doute moins de 10 ans. Les drones ont déjà changé la donne pour l'Ukraine ou les Houthis, on n'arrête pas de le voir. Demain, ce sont les armées de l'air occidentales qui vont changer de visage.
Est-ce que la France et l'Europe sont prêtes pour cette révolution ?
Technologiquement, on a toutes les cartes en main. Économiquement, il faut quand même qu'on dépense beaucoup plus. Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, disait la semaine dernière que sur le front aéronautique, l'Europe va devoir augmenter ses budgets de 400%. Et puis le dernier problème, franchement, là, il est plutôt politique. L'Europe de la défense, il faut être clair, ça n'existe pas. On joue chacun pour soi de manière égoïste. On ne mutualise pas nos efforts. Et c'est Guillaume Faury, le président d'Airbus et du GIFA, c'est le lobby français de l'aérien, qui résume parfaitement la situation en rappelant que, et je le cite, l'Europe des 27 achète 4 à 5 fois moins d'équipements de défense chaque année que les États-Unis. Et en plus, s'équipe à 60% hors d'Europe. Donc, in fine, les Européens achètent en Europe, en termes d'équipement de défense, 8% de ce que les États-Unis achètent aux États-Unis. Et de manière, en plus, fragmentée. Donc, tout est dit.
David Barou pour le décryptage. Vous le retrouvez, évidemment, demain matin vers 8h05 et sur l'application Radio Classique. À demain, David.
À demain.
À suivre, Franck Ferrand. 2 minutes d'histoire. C'est le point du jour à 7h57. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Ce matin, un triste anniversaire.
Oui, la mort d'un des grands historiens du XXe siècle, celui qui est panthéonisé, vous savez, Marc Bloch. On est le 16 juin 1944, dans les geôles de la prison de Montluc à Lyon. Un appel, 28 noms résonnent. Un appel, c'est un soldat allemand qui fait l'appel, hein, Et parmi les 28 noms, l'auteur des Rois Thaumaturges. Entré dans la clandestinité, arrêté 4 mois auparavant, lui et ses compagnons d'infortune montent dans un camion qui va les emmener à 3 kilomètres de là, à Trévoux, près d'une prairie, où par paquet de 4, les prisonniers vont être exécutés dès qu'ils descendent de la camionnette. 2 survivants réussiront à survivre à leurs blessures et ils ont été laissés pour morts au milieu de cet amas de corps et seront découverts le lendemain par l'instituteur de la commune, mais parmi eux ne figure pas Marc Bloch.
Marc Bloch qui était revenu 4 ans auparavant sur cette étrange défaite de 1940 dans un texte qui a encore des lecteurs aujourd'hui.
Oui, Marc Bloch, vous savez, moi qui suis un ancien de l'école des hautes études, il faut que je vous dise que Marc Bloch a révolutionné, avec d'autres, avec Lucien Febvre, il a révolutionné l'histoire en France. Il a créé ce qu'on appelle l'école des annales, qui considérait non plus l'histoire comme une chronique, celle que je vous raconte, moi, tous les matins, mais comme l'étude de grands mouvements sociaux, économiques, politique et même philosophique. Bon, c'était une école très utile, même si à mon avis, elle est allée un peu loin et jusque dans des abus dans les années 70 et 80. Mais en tout cas, il est à l'origine de ça. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il a écrit, vous l'avez dit, ce livre qui s'appelle L'étrange défaite et qui analyse les raisons, les causes de la défaite de 1940. Et évidemment, dans l'époque que nous vivons, nous qui vivons d'autres étranges défaites au quotidien, ce sont des textes qui nous parlent et qui nous interrogent. Et c'est vrai que Marc Bloch a fini par devenir en quelque sorte une conscience.
Franck Ferrand qui nous parle si bien de Marc Bloch sans ses notes, qu'on retrouve un peu après 9h. La météo, Virginie Fulpin, beaucoup de soleil.
Il y a des nuages dans les régions voisines de la Manche, mais le soleil s'impose partout ailleurs. Les températures sont comprises entre 11 et 15 degrés dans la moitié nord ce matin. Déjà 22 près de la Méditerranée où il fera 32 dans l'après-midi. Toutes les alertes aux orages sont maintenant levées.
Chaque heure compte.